super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, hey, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Eh oui, ce que l'on remarque en premier chez vous, c'est votre portail. Alors choisissez la qualité J-Pass. Tous les produits J-Pass sur jpass.fr.
Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Juste avant le journal, puisqu'il est 19h, la tendance météo que l'on détaillera dans quelques minutes, avec beaucoup d'alertes, d'ailleurs, oui. Des alertes orange, cher Peggy.
On a 19 départements en vigilance orange pour orages, pluies, inondations et crues entre le nord et le nord-ouest du pays. Et demain, on aura encore un temps bien pluvieux sur une large moitié est.
Point complet dans quelques minutes pour l'heure, 19h. Et voici le 360 dans RTL, bonsoir. 360 secondes pour tout savoir, c'est avec vous Rémi Jacob, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Ils étaient, selon la CGT, plus de 200 000 manifestants aujourd'hui dans les rues de France, 121 000 selon le ministère de l'Intérieur. Un 1er mai qui a donc logiquement moins mobilisé que celui de l'an dernier, en pleine réforme des retraites. Mathilde Piquet, vous êtes actuellement pour RTL à Paris, sur la place de la Nation, où se termine le cortège. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir.
Alors cette fin de manifestation est marquée par quelques tensions.
Oui, les forces de l'ordre encerclent la place de la Nation pour disperser le cortège. Un peu après 18h, des affrontements ont eu lieu. Les manifestants ont jeté des projectiles contre les forces de l'ordre qui ont en retour utilisé des gaz lacrymogènes. Alors la situation revient peu à peu au calme. 45 personnes ont été interpellées au total.
Et puis sur le fond des revendications, Mathilde, vous l'avez constaté toute l'après-midi, c'était un 1er mai un peu particulier avec de très nombreux mots d'ordre.
Oui, dans le cortège, il y avait autant de revendications que de manifestants cet après-midi. Écoutez plutôt ces participants qui étaient chacun venus avec leur liste de doléances.
Évidemment, les salaires sont trop bas. Les gens, pour une grande partie, touchent à peine le SMIC. C'est une situation très précaire.
Toutes les opportunités sont bonnes pour rendre visibles nos problématiques pendant, avant et après les Jeux Olympiques.
Il y a la question palestinienne. L'intérêt des travailleurs, c'est aussi la paix.
Et ça ne s'arrête pas là. Certains étaient aussi là pour l'Europe, d'autres contre l'assurance chômage. Des revendications trop dispersées, selon Clara, chercheuse en physique.
Je suis un peu surprise de voir autant de syndicats qui n'ont un peu rien à voir avec le travail aujourd'hui. Enfin, il y a des personnes pour Gaza. Je trouve que ça fait perdre un peu le message du 1er mai de célébrer le travail, de parler des conditions de travail.
Et de l'aveu de responsables syndicaux eux-mêmes, c'est un 1er mai en demi-teinte cette année. Toutes ces revendications ont éparpillé la mobilisation. On est bien loin des 800 000 manifestants du 1er mai 2023, marqués par un mouvement massif contre la réforme des retraites.
Merci beaucoup Mathilde Piquet, en direct pour RTL de la place de la Nation à Paris. Et puis un petit peu plus tôt dans la journée à Saint-Étienne, Raphaël Glucksmann a été empêché de rejoindre le cortège. La tête de liste PS Place Publique qui a été prise à partie par une cinquantaine de personnes, dont des militants pro-palestiniens.
Un 1er mai marqué également par un grand meeting du Rassemblement National à Montpellier.
Un meeting au cours duquel Jordan Bardella a tenté de garder ses troupes mobilisées à un mois seulement des élections européennes, et cela alors qu'il est largement en tête des intentions de vote. 31% selon le dernier sondage Toluna Harris Interactive pour RTL. Loin, très loin derrière, avec seulement 6% d'intentions de vote, la tête de liste Reconquête Marion Maréchal était quant à elle à Domrémy-la-Pucelle, dans les Vosges. Alors c'est le village natal de Jeanne d'Arc, un lieu Arthur Bélier qui n'a évidemment pas été choisi au hasard.
La statue de Jeanne d'Arc dans le Dôme, Marion Maréchal rend hommage au combat de cette figure historique en le comparant à son propre combat pour les élections européennes.
Cette jeune fille en armure va retourner la fortune d'un pays à genoux, divisé. Jeanne incarne ce grand chef politique, mais aussi le symbole de la résistance, de la reconquête. Je veux défendre la souveraineté nationale et l'identité de la France, comme hier face aux Bourguignons et demain face aux Bruxellois.
Célébrer Jeanne d'Arc, un 1er mai, le clin d'œil de Marion Maréchal est à peine dissimulé. Elle n'a pas peur de son ombre, elle ne renie pas pas l'héritage de Jean-Marie Le Pen, glissant cadre de la campagne. Stanislas Rigaud, aussi candidat sur la liste, espère que les électeurs historiques du RN apprécieront le symbole.
Certains partis qui pendant des années lui ont rendu hommage ne le font plus pour justement éviter certaines questions comme « Ah mais vous faites ça par rapport à Jean-Marie Le Pen ». Non, je crois qu'on fait ça par rapport à cette figure. En politique, il y a les idées, mais il y a aussi les symboles. Et je crois que le symbole du Jeanne d'Arc est un symbole important et je dis aux électeurs RN s'ils veulent de nouveau la célébrer, c'est chez Reconquête.
Avant de rattraper le RN, Reconquête tente surtout de s'assurer quelques sièges au Parlement en ne passant pas sous la barre fatidique des 5%.
Un reportage signé Arthur Pereira du service politique de RTL.
Un rétro-pédalage express du ministère de l'Éducation nationale cet après-midi.
L'histoire commence lundi. Le ministère avait fait suspendre sans prévenir personne le logiciel de paiement des heures supplémentaires des professeurs de collège et lycée. Objectif, faire des économies. Dans la foulée, tollé chez les chefs d'établissement qui ne voyaient pas comment ils allaient pouvoir finir l'année scolaire sans financer les heures sup des enseignants. Hier, tous les syndicats sont montés au créneau et donc aujourd'hui, la ministre a fait savoir qu'elle avait donné instruction que dès demain, les académies disposent des moyens budgétaires prévus. Un communiqué de presse envoyé à 16h, un 1er mai, il y avait urgence à calmer la colère.
Un arrêté anti-mendicité est entré en vigueur aujourd'hui dans le centre-ville d'Amiens et il fait débat.
Un texte initié par la maire de la ville, Brigitte Fourré, l'élue qui justifie sa décision par les multiples interventions des forces de l'ordre, notamment pour des problèmes d'alcoolisation. Et cet arrêté répond notamment, Margot Munoz, à une demande des commerçants locaux.
Oui, c'est eux qui ont tiré la sonnette d'alarme. Les terrasses de café sont souvent les premières cibles. Les chaises sont volées et les tables cassées. Julie, gérante d'une boulangerie, en avait ras-le-bol.
Ils rentrent dans le magasin pour demander de l'argent. Ils sont parfois très agressifs et franchement, ça devient pesant, quoi.
Est-ce que vous avez déjà eu des dégâts ?
Oui, ils explosent les portes sur le côté pour dormir la nuit, donc c'est un peu embêtant. On a beau prévenir les syndics, appeler les policiers, c'est toujours les mêmes qui reviennent, donc ça devient lourd, quoi.
Avis moins tranché du côté des habitants, la plupart trouvent la mesure inhumaine. D'autres espèrent se sentir plus en sécurité dans le centre-ville. Mais pour Michel de la Ligue des droits de l'homme, la raison de cet arrêté est ailleurs.
C'est du 1er mai au 31 août, c'est clairement lié au jeu. Sur Amiens, on aura des sportifs internationaux qui arrivent, qui seront hébergés. Fait dégager les pauvres du centre-ville, l'hypercentre, il n'y a que ça. Hein. On ne veut pas voir des pauvres dans la capitale, on ne veut pas voir des pauvres ici aussi, et donc d'où cet arrêté. Hein. Et on veut laisser une image d'Amiens sans les pauvres.
La Ligue des droits de l'homme, avec d'autres associations, a déposé un recours en référé. L'audience aura lieu le 13 mai prochain.
Reportage signé Margot Munoz dans l'hypercentre d'Amiens et à noter que RTL a tenté de contacter la mairie sans réponse pour l'instant.
Au Proche-Orient, le chef de la diplomatie américaine a décidé d'arracher maintenant une trêve entre Israël et le Hamas.
Anthony Blinken qui est en tournée en Israël, le diplomate a rencontré tout à l'heure le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans la foulée, il s'est rendu à Tel Aviv à la rencontre des familles des otages. Objectif, leur témoigner toute la solidarité des États-Unis.
Ramenez vos proches à la maison, c'est au cœur de toutes nos actions. Et nous ne lâcherons pas avant que tous, hommes, femmes, militaires, civils, jeunes et vieux ne soient rentrés. Il y a sur la table une proposition solide. Le Hamas doit dire oui, il a besoin de cet accord aussi. Nous sommes déterminés et nous n'abandonnerons pas jusqu'à ce que vous retrouviez vos êtres chers. Alors s'il vous plaît, restez forts, gardez la foi. Nous resterons à vos côtés chaque jour jusqu'à leur libération.
Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, qui s'exprimait tout à l'heure à la télévision israélienne.
On termine avec le football et la pression qui monte à moins de 2 heures du coup d'envoi de Dortmund-PSG.
Demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens aux portes de cette finale qui les fait tant rêver. Bonsoir Philippe Sansfourche.
Bonsoir.
Alors je crois que ça y est, vous êtes enfin rentré dans le stade à Dortmund.
Oui, dans le Signal Iduna Park, ce temple du foot allemand où 80 000 supporters tout à l'heure donneront de la voix. Parmi eux, quasiment 5 000 supporters du Paris Saint-Germain qui ont arpenté les rues de la ville tout au long de l'après-midi. Sous un temps estival, hein, il y a un soleil là, qui baigne au-dessus du stade, près de 25 degrés. On attend encore 21 degrés au coup d'envoi. Donc ce sera quasiment un match de l'Euro, un match estival. Les joueurs qui devraient pas tarder à arriver, ils Ils sont juste à côté, hein, leur hôtel. D'ailleurs, Luis Enrique et son staff se sont permis une petite balade bucolique tout à l'heure dans les parcs qui jouxtent le stade. Voilà, il y a une forme de décontraction effectivement qui tranche avec ce qu'on a pu connaître par le passé. C'est pourtant que la quatrième demi-finale historiquement du Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions, c'était passé qu'une fois, année 2020, année Covid, il y a 4 ans. D'ailleurs, cette année-là, le PSG avait trouvé sur sa route le Borussia Dortmund en 8e de finale et était passé. Le Paris Saint-Germain qui va jouer en blanc ce soir, comme à Barcelone, en quart de finale. Est-ce un bon présage? En tout cas, tous les voyants sont au vert pour ce Paris Saint-Germain. Ah, ce
vous
soir.
Voulez voir des signes partout, vous
Du blanc et du jaune, ça va faire une omelette. Hein.
On l'a compris.
Ah, joli.
Philippe, vous restez connecté, évidemment, dans le stade à Dortmund. Je crois que Nicolas Georgerot, votre compère, n'est pas très loin.
Il était avec acheté
vous.
Saucisses au stand.
Ou de la bière, connaissant Nicolas. Avec vous, avec Nicolas, avec Xavier Domergue, avec Karine Galli, qui seront également autour de la table tout à l'heure lors de la soirée foot sur RTL. On va se poser cette question dans quelques instants. Est-ce la bonne année pour le Paris Saint-Germain? C'est le débat du soir, donc vous restez connectés. Le match à vivre sur RTL, soirée événement ce soir autour d'Eric Silvestro à partir de 20h et le coup d'envoi à 21h. Merci beaucoup Rémi et à tout à l'heure, justement à 20h.
À tout à l'heure.
Le temps pour demain avec donc énormément de départements ce soir en vigilance orange.
Exactement, 19 départements en tout entre le nord et le nord-ouest. Alors en vigilance orange pour orage entre le nord de la Bourgogne, les Hauts-de-France et l'Île-de-France, pour pluie inondation en allant vers la Normandie, et le Calvados est en vigilance orange pluie inondation et crue. Alors on attend de violents orages, de fortes précipitations, de forts cumuls de pluie, de la grêle localement, de fortes bourrasques de vent, donc des orages vraiment marqués, donc soyez extrêmement vigilants, hein, si vous pouvez ne pas sortir c'est encore mieux. Et puis demain on va retrouver encore cette perturbation sur une bonne partie est du pays. Il y aura peu d'évolution, quelques pluies éparses sur la façade atlantique. On aura ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages, éclaircies, quelques averses. Et puis ce ciel de traîne va gagner la Normandie et les plaines du sud-ouest au fil des heures. De la neige à basse altitude en montagne et des orages également sur le nord-est et en Corse. Tout ça sous des températures minimales qui seront douces, souvent comprises entre 8 et 12 degrés, mais les maximales en chute libre. Et sur le nord-est, on perd parfois 10 degrés, comme à Dijon. Il fera 12 seulement demain, 22 cet après-midi, 13 degrés à Lyon, 14 à Paris. On a eu 21 aujourd'hui. 14 également à Marseille, 16 à Metz et Montpellier, 19 à Strasbourg.
Merci beaucoup Peggy et météo toujours dans nos dessous de l'actu.
RTL, bonsoir.
Les dessous de l'actu.
Parce qu'on va s'intéresser ce soir au retour tant attendu de la pluie dans le fameux département des Pyrénées-Orientales.
Oui, 2 ans qu'on l'attendait, cette pluie. Enfin un peu d'eau donc dans cette région desséchée. Et pas juste une averse, mais une belle pluie continue depuis dimanche. Une pluie qui réjouit les habitants et les agriculteurs comme David. Écoutez, il est vigneron. Il a perdu déjà plus d'un tiers de ses vignes à cause de la sécheresse.
Si ça tombait pas, c'est la fin, hein, totale de tout. Hein. Mais bon, on n'a pas gagné, il en faudrait 2 ou 3 fois. C'est vrai qu'on a un déficit de 2 ans. C'est pas 90 mm qui vont changer quelque chose. Hein. On peut pas rattraper tout ce retard, mais par contre, on sauve un peu certains meubles, on va dire.
On entend ce vigneron joint par Patrick Tégéraud pour RTL. On entend sa joie très mitigée. Est-ce que cette pluie est suffisante pour réalimenter justement les nappes, les cours d'eau? C'est ce qu'on va voir avec vous, Virginie Garin, notre spécialiste environnement. Bonsoir Virginie.
Bonsoir à tous.
Il n'avait pas plu comme ça, Isabelle le disait, dans les Pyrénées-Orientales depuis 2 ans.
Voilà, 75 mm en 3 jours, ça veut dire à peu près 75 litres d'eau par mètre carré. C'est l'équivalent d'un mois de pluie à cette période. Et en fait, effectivement, depuis 2 ans, il pleut 2 fois moins qu'une année normale. Et les terres étaient complètement desséchées, craquelées, les pieds de vigne à l'agonie. Les climatologues, en fait, ne sont pas très optimistes. Le département est en train de changer de climat, comme l'Espagne. Il est en train de devenir semi-aride. En attendant, donc, ces derniers jours, ces orages ont fait le bonheur des habitants et des agriculteurs.
Mais alors, est-ce que ça a permis de recharger quand même un petit peu les nappes phréatiques?
Bien non, parce que ce n'est plus la période où elles se rechargent. La végétation intercepte l'eau pour pousser, donc elle s'est très peu infiltrée dans les sols, qui en plus étaient tellement secs que ça les rend au début imperméables. Vous prenez une vieille éponge toute sèche, et bien au départ, l'eau glisse dessus, il faut un moment pour qu'elle pénètre, donc malheureusement, ça n'a pas fait grand-chose pour les nappes. Et les arrêtés de restriction qui en sont au niveau rouge vif, hein, au niveau crise dans une bonne partie des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, d'ailleurs, eh bien vont durer.
Ça donne un répit aux agriculteurs ou pas?
Alors, oui, quand même. Et aux particuliers qui ont des jardins et qui n'ont pas le droit d'arroser tout le temps. Donc ça fait effectivement redémarrer les potagers. Ça va donner un coup de fouet à la vigne, aux cultures maraîchères, aux abricotiers. Mais pas de quoi retrouver sans doute une récolte normale. Il faudrait plus de pluie.
Dans tous les cas, Virginie, il faut bien le dire hein, très clairement, l'agriculture dans cette région, ce ne sera plus jamais la même.
Voilà, c'est une conséquence du réchauffement climatique très concrète. D'ailleurs, le gouvernement a annoncé un plan Méditerranée spécifique pour ces départements qui vont devoir changer leur façon de produire, irriguer, gérer l'eau, faire des réserves. L'élevage va devoir évoluer parce que la région subit des invasions d'insectes qui donnent aux vaches des maladies comme la MHE. Les vaches laitières ont des rendements qui baissent avec la chaleur. Même chose pour les vignes. Donc, 50 millions d'euros sont prévus pour aider les agriculteurs à s'adapter techniquement et pourquoi pas se tourner vers de nouvelles cultures, des amandiers, des oliviers ou des arachides.
Les dessous de l'actu au plus près de la situation des Pyrénées-Orientales ce soir avec vous. Merci beaucoup Virginie Garin. On va marquer une toute petite pause et puis on va passer au débat du jour dans RTL Bonsoir. Est-ce que c'est enfin l'année du PSG en Ligue des Champions ? On refait le match en quelque sorte avec Karine Galli, Xavier Domergue, nos envoyés spéciaux en Allemagne avant Dortmund-PSG. Demi-allée à vivre dès 20h sur RTL. Avant 20h, on va aussi recevoir Dave qui va fêter ses 80 ans sur scène, miraculé. 2 ans après être tombé dans le coma, il a 1000 choses à nous raconter. Et puis n'oubliez pas, il y aura de la cuisine, de la musique et le grand quiz avec un week-end en Corse à gagner. Et ça, c'est pour vous les auditeurs, donc vous restez avec nous.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
RTL, bonsoir. Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. Renault.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 4 500€, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Il n'y a pas d'âge pour apprécier un bon repas. Et choisir les menus services, c'est se simplifier la vie. Les menus services, le spécialiste du portage du repas à domicile qui s'adapte aux besoins des seniors. Les menus services livrent partout en France des repas variés, équilibrés, avec un large choix de produits de saison. Plus d'infos sur les-menus-services.com.
On en parle.
Les journées de la sécurité routière au travail, c'est du 27 au 31 mai. On en parle dans un instant avec Jean-Marc Fedutti, chef d'entreprise dans
RTL,
le Nord.
Bonsoir.
Julien Cellier,
Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
Allez, 19h16, RTL, bonsoir. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est parti pour le débat du soir. Est-ce l'année du PSG en Ligue des Champions ? Cyprien espère évidemment l'inverse.
Évidemment, et c'est assumé, on refait le match.
Bah oui, on se pose la question avant Dortmund-PSG. Demi-finale aller de Ligue des Champions ce soir sur RTL, prise d'antenne, vous l'avez compris, dès 20h, donc juste après RTL, bonsoir. Ce match événement, vous allez le vivre avec nos envoyés spéciaux en Allemagne, les Tom et Jerry, les Simon et Garfunkel du Ballon Rond. On va retrouver Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot. Rebonsoir les copains.
Bonsoir.
J'aurais préféré Mbappé Dembélé, mais on peut aller sur le.
Il y a un peu moins de talent, désolé.
Ça court un peu moins vite sur le pré. En studio dès 20h, il y aura aussi pour vous servir, autour d'Éric Silvestro, nos experts. Karine Galli, bonsoir.
Bonsoir.
Xavier Domergue, la voix du foot sur M6, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et
alors,
à tous.
Alors déjà, vous avez 10 secondes chacun pour nous dire comment vous sentez ce match ce soir. Depuis Dortmund, Philippe puis Nicolas.
Un match serré où il y aura peut-être pas 2 buts d'écart, mais peut-être un seul ou un match nul. Mais en tout cas, un match serré entre les deux équipes, Philippe.
Un match ouvert, spectaculaire entre deux équipes qui n'arrivent pas à renier ce qu'elles sont profondément. C'était leurs deux équipes qui assument le déséquilibre et qui vont vers l'avant. Donc après, de quel côté ça va basculer, ça, c'est plus difficile à savoir.
Karine.
Ben, je pense que les Parisiens sont quand même très heureux au tirage. Alors, on peut pas présager de ce qui se passera sur les deux matchs, mais forcément, affronter Dortmund, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les deux équipes sont portées vers l'attaque. Les deux équipes concèdent des occasions. Donc, je pense qu'il y aura du spectacle ce soir.
Xavier ?
Complètement d'accord avec Philippe et Karine. Je pense que ça va être un match particulièrement ouvert avec deux équipes qui ont pas mal de similitudes, aussi bien de par leur qualité offensive, de par leur lacune défensive. Donc, je pense qu'on va assister à une grande soirée. Je pense que ça peut faire un 2-partout ou un 3-partout ce soir.
Allez, maintenant, on en vient au débat. Et à cette question, est-ce enfin l'année du PSG? On a donc un coach reconnu, Luis Enrique, Mbappé qui a déjà marqué 43 buts cette saison. Le PSG, on peut le dire, n'a jamais été aussi fort.
C'est, ça fait mal. Je trouve que c'est très difficile de se prononcer parce que le PSG, quand on regarde la qualité de jeu et le manque de régularité, surtout depuis le début de la saison, pour moi, ça n'a pas été le meilleur Paris Saint-Germain, par exemple, de l'ère QSI. Pour moi, on ne peut pas le dire. En termes de, voilà, en termes de résultats, ça me paraît évident parce que, Karine le disait, le tableau est quand même encore une fois largement favorable, même ne pas minimiser la qualité des adversaires hein, jusque-là, mais ce Paris Saint-Germain, pour moi, personnellement, ne m'impressionne pas. L'année du PSG, peut-être, mais ce n'est pas le meilleur PSG qu'on ait connu.
Karine, ça veut dire que finalement, on regarde cette saison un peu en trompe-l'œil, parce que quand on joue la Real Sociedad en huitième, pas forcément le meilleur Barcelone du monde en quart, et maintenant Dortmund en demi, la voie est trop facile pour qu'on puisse se déterminer sur le niveau de cette équipe.
Le niveau de cette équipe, c'est quand même encore un grand point d'interrogation, mais il y a quand même le match retour à Barcelone, et ça, c'est un déclic dans la saison du PSG, parce que si le PSG avait été sorti par Barcelone, ça aurait été un énième couac. Et là, pour une fois, ils ont inversé la tendance. Ils ont fait une remontada. Ils
grâce
ont
à sorti... un carton rouge aussi.
Ah oui, non, mais attendez. Le carton rouge d'Araujo, il est normal. Les Barcelonais se sont tirés une balle dans le pied et les Parisiens ont parfaitement su utiliser les faiblesses de l'adversaire. Mais,
même
ils ont inversé
si
une tendance qui était mal embarquée. Ils se sont qualifiés. Ils ont un regain de force, de confiance en eux qu'ils n'avaient pas avant cette double confrontation.
Juste, si je peux me permettre, à 3-1 dans ce match dont tu parles, Lewandowski a une situation de contre, l'attaquant du Barça, qui est énorme. C'est-à-dire que s'il le négocie correctement, s'il trouve le décalage avec son coéquipier qui est à sa gauche... Non mais,
exactement.
Non, ce que je veux dire, c'est que le Paris Saint-Germain...
Ils ont de la réussite, ils ont
bénéficié de l'exclusion d'Araujo, qui est plus que logique, et a bénéficié des mauvais choix de certains aussi. Ça a été une victoire 4-1, mais pas une victoire 4-1 éclatante et maîtrisée de bout en bout.
Alors, mais toutes les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions n'ont pas été spectaculaires du début jusqu'à la fin. Ça se construit une campagne européenne.
Philippe, je vais peut-être poser la question autrement. Est-ce que, je ne vais pas vous demander si c'est le meilleur PSG de l'ère qatari, mais plutôt si c'est le PSG le plus confiant de l'ère qatari. Parce que souvent, on a vu ce club s'effondrer dans les moments clés. On a l'impression que quelque chose a changé. C'est ce que vous nous disiez d'ailleurs il y a quelques minutes, que déjà dans l'atmosphère, il y a de la confiance dans ce groupe.
Tout a changé dans ce club, effectivement, dans son environnement. Il est plus cornaqué par les guerres internes. On n'a pas entendu parler de la direction sportive qui bagarre avec l'entraîneur. On n'a pas eu des histoires de char à voile. On n'a pas eu les fêtes de Neymar et les barbecues. En fait, tout s'est passé à peu près comme dans un club de foot normal. Et c'est vrai que c'est pas... Je vais y répondre à la question. C'est loin d'être le PSG le plus impressionnant des dernières années. Mais on sait que c'est l'histoire des Coupes d'Europe. En fait, il faut être là tous les ans. Et puis, à un moment donné, ça peut passer... Je sais qu'autour de votre table, il y a pas mal de sympathisants de l'Olympique de Marseille.
Je vois pas ce que vous
En 93, quand l'OM gagne, on se souvient tous de la finale face au Milan. Mais avant, c'est un parcours face à Bruges, face à Moscou, face aux Glasgow Rangers. En fait, et puis c'était pas le meilleur OM, loin de là. Voilà. C'était pas celui qui faisait rêver
c'était
avec
Wadeu. Celui de 91 était bien meilleur que celui de 93.
Exactement. Bien sûr. Sauf que voilà, et Chelsea a gagné sa Coupe de sa Ligue des Champions la première l'année où ils étaient les moins bons. Des exemples comme ça, il y en a pléthore. Donc ça veut pas dire que le PSG ira au bout, mais en tout cas, on a ce sentiment qu'ils sont plus rattrapés par leurs vieux démons. Et qu'il y a un petit interstice dans lequel ils peuvent se glisser.
Est-ce que c'est, puisqu'on parle de l'année du PSG ou non, est-ce que c'est l'année ou jamais ? Parce que c'est la fin de l'aventure avec Kylian Mbappé, l'an prochain il faudra faire sans lui, reconstruire l'équipe. Nicolas, est-ce que c'est l'année ou jamais ?
Depuis quelques jours, quand on parle avec les supporters parisiens, à chaque fois qu'on leur parle de ça, ils disent mais en fait chaque année on dit ça, que ça va être l'année ou jamais, parce que avant de voir par exemple Neymar partir ou Messi partir et maintenant Mbappé partir, que ça peut être l'année ou jamais. Là, avec un Luis Enrique qui va s'installer plutôt dans la durée et construire des choses, c'est un Paris Saint-Germain qui va avoir des atouts différents. Maintenant, l'histoire serait absolument fantastique de voir un Kylian Mbappé remporter une Ligue des Champions pour dire ensuite au revoir et arriver en seigneur au Real Madrid avec une Ligue des Champions et d'avoir fait le travail. Enfin, on mesure pas encore parce que le Paris Saint-Germain n'y est pas, mais on ne mesure pas ce que ça représenterait à la fois dans la carrière personnelle de Kylian Mbappé et dans l'histoire du Paris Saint-Germain.
Xavier Demergue, c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps à Paris, Kylian Mbappé, alors qu'il aurait pu filer au Real Madrid depuis des années, parce que finalement, gagner la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG, c'est beaucoup plus important que gagner la 16e Ligue des Champions avec le Real Madrid.
On sait que Kylian Mbappé est là, et encore pour bon nombre de saisons, pour marquer l'histoire de son sport, pour marquer l'histoire du football. Il le fait déjà, on rappelait les chiffres, c'est sa meilleure saison sur le plan comptable, en termes de buts marqués, peut-être pas sa saison la plus aboutie personnellement, c'est aussi le paradoxe, mais oui, Kylian Mbappé, son rêve le plus profond, c'est de remporter cette Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Mais ça arriverait surtout au terme d'une saison où on ne s'y attendait pas vraiment. Et ce serait une apothéose pour lui, effectivement, de réussir à partir avec cette Ligue des Champions. Maintenant, il y a encore du chemin.
Je vous écoute depuis tout à l'heure, excusez-moi de casser un peu l'ambiance, mais il n'y a pas un peu excès de confiance quand même?
Là, c'est sûr.
On n'a pas dit que c'était fait. On dit juste que PSG a quand même eu de la chance au tirage. Il en faut.
Mais
le PSG a parfois été malchanceux au tirage.
Karine.
Dortmund, c'est une équipe qui est toujours pas qualifiée pour la Ligue des Champions l'an prochain parce qu'elle est seulement cinquième de son championnat en Allemagne. Dortmund, c'est une équipe qui a été baladée ce week-end par Leipzig. Donc déjà, sortir d'un match comme ça avec une lourde défaite, c'est pas la meilleure des choses. Et Dortmund, c'est une équipe qui a des absences. C'est une équipe qui a une défense vieillissante. C'est une équipe qui a sa place en demi-finale, mais c'est pas un ogre européen, c'est pas City, c'est pas le Real,
c'est même pas le Real, pas le PSG. C'est pas le Bayern.
Le PSG est en demi-finale, c'est entre guillemets un objectif chaque saison. Dortmund, ils ont leur place, mais on n'aurait jamais misé sur eux en début de campagne européenne.
Alors il y a un facteur quand même, et je voudrais que Philippe Sanfourche vous nous en parliez, puisque vous êtes installé dans ce Signal Iduna Park, qui est le stade de Dortmund. Il y a quelques semaines, on recevait Bichente Lizarazu, il était assis à votre place, Xavier Domergue, il était un peu plus
c'est
petit
une chance.
Face au micro, et il nous disait la meilleure ambiance, il a joué très longtemps au Bayern Munich, l'ennemi de Dortmund en Allemagne, il disait la meilleure ambiance que j'ai vécue, c'est à Dortmund. Est-ce que ça peut être un facteur qui joue dans ce match? Il y a notamment cette tribune qu'on appelle le mur jaune, c'est 40 mètres de haut, c'est 100 mètres de large, c'est vraiment vertigineux, c'est à 37 degrés d'inclinaison. Ce soir, 15 000 supporters, alors que d'habitude c'est 25 000
parce qu'ils ont le droit de se mettre debout. Non, Julien, parce que depuis deux ans, en fait...
Ils ont le droit d'être debout dans la tribune?
Oui, il y avait déjà 81 000 en décembre, et là, dans le mur jaune, il y aura 25 000 personnes debout.
Que ça joue, ou alors que quand on est Paris, quand on est habitué à gagner régulièrement au stade de Vélodrome sous les colibés marseillais, finalement le mur jaune, on s'en fiche un peu.
Ah, c'est un peu, puisque vous aimez bien les analogies avec l'Olympique de Marseille.
J'adore.
Manifestement. Oui, ça joue. D'ailleurs, Dortmund, on pourrait dire que c'est un petit peu le Marseille allemand, hein, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à aligner de bons résultats en championnat contre les gros. Mais ils ont fini premier de la poule, on appelait alors, entre guillemets, la poule de la mort, devant le PSG, devant Newcastle, devant Milan en Ligue des Champions, et ils ont sorti l'Atlético de Madrid en leur mettant une flopée de buts au match retour, ce que peu d'équipes sont capables de faire. Donc ils ont ces deux visages-là, et c'est aussi en grande partie grâce à cette ambiance au stade qui galvanise.
Parmi vous quatre, qui a déjà commenté un match à Dortmund? Est-ce que c'est une première pour... Non, bah vous étiez au match aller, Philippe et Nicolas.
Ça fait trois fois.
Non, mais à Dortmund.
Et en 2020, et c'est vrai que, Julien, quand vous évoquiez...
Ça fait vraiment du bruit.
Oui, c'est complètement différent. Ouais. Et en 2020, dans la configuration, quand le Paris Saint-Germain était venu jouer son 8e de finale de Ligue des Champions ici, on était dans l'ancienne version avec 15 000 spectateurs et avec une affluence totale à 66 000. Et là, on a vu la différence en décembre quand on est venu pour le Paris Saint-Germain sur le dernier match phase de poule. C'est 81 000. Il va y avoir des milliers de drapeaux. Ils sont face à nous qui vont être agités. C'est très impressionnant. Voilà, différent.
Faut
c'est
expliquer aux auditeurs différente. Que pendant longtemps, les instances européennes du foot n'autorisaient pas les supporters de Dortmund à être debout dans cette fameuse tribune du mur jaune, et donc il y avait simplement 15 000 personnes. Là, 25 000, ça change quelque chose. Vous allez commenter demain pour M6 le fantastique Marseille-Atalanta Bergame au Vélodrome. Xavier, vous qui connaissez bien l'ambiance du Vélodrome, c'est similaire, c'est aussi bruyant, c'est aussi volcanique?
J'ai eu la chance de connaître les deux. Ça va peut-être faire plaisir aux Marseillais, mais le Vélodrome dans un grand soir d'Europe, je pense qu'il n'y a pas vraiment de comparatif possible. C'est-à-dire que
vous êtes prêt pour demain, ça va être
pour avoir vécu une soirée. Bon, ça remonte, hein, c'était il y a 6 ans. On s'accroche toujours souvent à ces souvenirs-là. Ce fameux match contre le Rasenballsport Leipzig il y a 6 ans, c'était un quart de finale de Ligue Europa.
Marseille-Leipzig.
Vraiment, c'était une soirée fantastique, un moment inoubliable. Marseille, c'est particulier. C'est un club différent, c'est une ville spéciale. Maintenant, attention, Dortmund, le Westfalenstadion, comme on l'appelle dans l'histoire, le Signal Iduna Park, est un stade chargé justement d'histoire et un stade bouillonnant. Les Bavarois le disent, à chaque fois qu'ils viennent à se déplacer dans l'antre du BVB, c'est très très compliqué. Donc oui, ce sera un atout pour Dortmund et non, le match ne sera pas évident pour le Paris Saint-Germain. Évidemment, on le sait, Dortmund a beaucoup de talent.
Dortmund, PSG, ce soir, prise d'antenne 20h. On vous retrouve tout à l'heure les copains. Merci d'avoir refait un petit peu le match avec nous dans RTL. Bonsoir. Et puisqu'on évoquait l'OM, OM Atalanta Bergame, là aussi, soirée exceptionnelle demain à partir de 20h sur RTL. Et vous, pour M6, vous serez aux commentaires. Vous en avez de la chance. Vous serez au Vélodrome demain. Xavier, amusez-vous demain, Xavier, dans le volcan marseillais. Dans quelques secondes, RTL, bonsoir, continue. Tout autre chose, c'est un bout de la BO de la vie des Français qui sera ici en studio. La BO des années 70-80 aussi. Le toujours pétillant Dev va nous rejoindre. 80 ans sur scène aujourd'hui. Le 1er mai, il ne prend pas sa retraite, Dev. Lui, il y a 2 ans, il tombait dans le coma. C'est donc un survivant qui vient aussi nous raconter un bout de sa vie dans un instant. Avant 20h, une douceur sucrée aussi dans la guinguette d'Angèle, la playlist de Roman. Et puis vous pourrez gagner un week-end en Corse, à tout de suite.
RTL, bonsoir.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi, je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Eh oui, et issu de la pêche durable. Hein.
Ça peut plus durer.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Alors que les TPE-PME ont bien du mal à recruter, l'APEC aide les entreprises à recruter le profil qui correspond vraiment à leurs besoins, notamment avec le service Sourcing Plus. Cet accompagnement personnalisé a permis à Eurogroup Consulting de recruter 3 talents seniors. Un service gratuit à retrouver sur APEC.fr.
On vous connaît, vous l'ouvrez tous les jours.
Alors choisissez la qualité J-Pass. J-Pass, porte de garage et portail. Tous les produits J-Pass sur jpass.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
RTL, bonsoir.
RTL, bonsoir. Et voici maintenant un nouvel invité. En ce 1er mai, nous recevons un chanteur qui repousse l'âge de la retraite. Lui, le plus français des Néerlandais, Dev fêtera dans quelques jours ses 80 ans sur scène. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, Dev.
Bonsoir.
J'irai bien refaire un tour du côté de chez soi.
Alors, le 21 mai, ça approche, vous allez fêter cet anniversaire avec un concert-événement à Paris, grand retour au Grand Rex, c'est une salle mythique de la capitale où vous n'avez jamais joué. Je crois que vous y êtes allé pour voir Nougaro à une époque, mais ce sera une première.
Ah oui, sur scène, ça sera une première. Il y a des salles que j'ai fait parfois dans ce qu'on appelle des galas privés, comme par exemple j'ai fait Bercy parce que j'ai chanté pour grand magasin, un truc comme ça, donc je le connais un peu, sinon j'ai toujours chanté à l'Olympia en fait. En fait, non, j'ai fait Bobino parce qu'il y a en 2019 il y a Renaud, le chanteur par la voiture, qui m'a produit mon dernier album et qui se trouvait très texte. Donc j'ai dit, tiens, je vais faire Rive Gauche. Ça, c'est du plus non plus. Et donc j'ai allé là où chantait Brassens. Ça m'a bien plu. Mais là, le Rex, c'est un... En tout cas, c'est une salle très confortable. J'espère que personne ne va s'endormir.
C'est vrai qu'on est bien installé.
On est trop
bien installé.
Et ce 21 mai, on entendra tous vos tubes ?
Ah ben, tous mes tubes, c'est vite fait. Enfin, j'ai 5 gros tubes, mais c'est des chansons connues quand même pas mal. Et j'ai vraiment dans ma tête, parce que je me réveille comme tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent savent que quand on a des petites angoisses, on se réveille vers 4-5 heures, c'est mon cas. Et je trouve plus le texte de mes chansons, etc. Mais non, je veux me faire plaisir aussi, hein, vraiment.
Ouais. Dev, vous allez donc fêter vos 80 ans, on le disait, et vous dites, j'aimerais chanter jusqu'à la fin de ma vie.
Eh, c'est peut-être après-demain. J'ai appris...
Espérons que non.
J'ai croyé que la moyenne pour les hommes était de 79, c'est passé à 80.
Ah. Vous voyez.
Donc, je gagne un an.
Vous avez de la marge.
Non, moi j'ai deux exemples pour l'âge. C'est, d'un part, c'est Hugo Frey, parce que j'étais à son mariage et il a 95. Mm. Il est extraordinaire. Moi je le croise de temps en temps
dans une TGV. Dans une forme.
Un septagénaire. Et puis l'autre, c'est, il n'est plus là, c'est Henri Salvador, parce qu'à 84 ans, il a vendu 1 million d'albums.
Il a vendu 1 million.
Ça m'intéresse.
Le jardin d'hiver.
Exactement.
Dans vos mémoires parues il y a quelques mois, Comment ne pas être amoureux de vous, vous dites que chez les moins de 50 ans, on ne connaît que deux chansons de vous. Du côté de chez soi, on l'a entendu, Eva. Vanina. Vous avez l'impression qu'il y a des générations aujourd'hui qui sont passées à côté de votre répertoire ?
Non, je dis pas ça, mais même s'ils connaissent les chansons, ils entendent, je sais pas moi, Est-ce par hasard ou Danser maintenant, mais on se souvient plus des chansons que des chanteurs, je pense. Et c'est pas grave, hein. Chanteur, il meurt.
Vous pensez qu'un jour on se souviendra que de vos chansons ?
Et encore, je suis même pas sûr que ça se souvienne de mes chansons. En revanche, j'adore chanter, j'adore monter sur scène. J'ai décidé que les deux meilleurs moments sur les 24 heures, c'est quand je me glisse dans le lit à côté de mon bien-aimé et quand je monte sur scène, de préférence devant une salle pleine.
Dave, vos mémoires, ils sont vraiment intéressants parce qu'on y découvre votre regard sur une époque assez dingue, une époque où vous vendiez 40 000 exemplaires d'un single comme ça en une journée. Exactement. Ouais. Mais vous exprimez quand même un regret, c'est celui d'avoir été longtemps considéré comme un chanteur à minette, comme on dit.
Bah oui, je suis pas contre le minette. Le minet, c'est pas mal non plus, mais sûr que c'est goût. Mais non, c'est marrant parce que j'ai noté ça dans Karen Cheryl, qui s'appelle même plus Karen Cheryl, vous vous souvenez de
Isabelle chanteuse. Morizet.
Isabelle Morizet, qui passait son temps un peu comme moi pour essayer de faire comprendre quand elle interview qu'elle n'était pas totalement idiote et qu'elle savait faire un vrai autographe en bas d'une signature en bas d'un contrat. Parce que quand on est chanteur de variété, variétoche comme on dit, sur manière un peu péjorative, c'est considéré comme quelque chose de mineur.
Et à cette époque, vous êtes en couple avec Patrick Loiseau, c'est l'auteur de vos chansons. Et vous dites, personne ne savait que j'étais gay, c'était impossible de parler de ça, ça ne faisait pas vendre.
Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était juste avant le confinement, donc il y a 3 ans, je pense, que j'avais proposé de faire l'émission de Jean-Pierre Foucault, comment ça s'appelle déjà
Qui veut gagner des millions.
Qui veut gagner des millions, avec Patrick Loiseau. Mm-hmm. Et on a dit, ah non, quand même pas deux hommes.
Encore aujourd'hui,
ça veut dire que l'époque,
là, il y a quelques années.
Je trouve ça étonnant. Ouais. Mais c'est vrai qu'aux Pays-Bas, ce n'est plus, on n'en parle même pas.
Vous notez une différence entre les deux pays ?
Oui, malheureusement, ça se passe pas mal aussi aux Pays-Bas, parce qu'ils ont choisi quelqu'un d'extrême droite. Mm. Donc c'est pas non plus parfait. Enfin, chacun ses goûts. Désolé, chers auditeurs et auditrices, si vous êtes extrême droite, je vous aime quand même. Surtout vous achetez mes disques et venez me voir.
Dave, dans la nouvelle génération, vous avez cité Slimane tout à l'heure, je crois que vous l'appréciez. Il va représenter la France la semaine prochaine à l'Eurovision, concours que vous connaissez bien, vous l'avez commenté. Est-ce que, d'après vous, la France peut enfin gagner ?
Personne ne peut le savoir, vraiment, vraiment. Je ne suis pas voyant ni voyante. Donc, mais en tout cas, il chante vraiment bien. C'est un vrai chanteur.
C'est une vraie voix.
Oui. C'est une vraie voix. Donc, je trouve ça bien aussi qu'on a pris quelqu'un qui n'est pas spécialement un ch'ti. Donc, ça, je trouve ça assez positif aussi en soi. Non, c'est bien ça. Et vu le problème qu'il y a pour les Jeux Olympiques, je pense que là, c'est cool. Mais c'est surtout le fait que c'est une vraie chanson.
Vous avez fait référence aux Jeux Olympiques. Ça vous a interpellé, cette polémique autour d'Aya Nakamura ?
Oui, je dis pas que je comprends pas, hein. Comment pourrais-je dire ça? Évidemment, le mot racisme et le racisme n'existaient même pas dans mon éducation familiale. Mm. Mon père était d'origine juive et il est devenu protestant bien avant la guerre, donc ça n'avait rien à voir avec les nazis. Et il a eu des problèmes quand même, il s'est mis à matière assassinée quand même, mais il était vraiment protestant. Et le racisme est quelque chose de totalement interdit, donc ça je ne le connais pas. Mais la différence, on ne peut pas l'ignorer. Je veux dire, quand on est chanteur, on s'en fout de quelle couleur il est, ou il chante bien ou il chante pas bien, quoi. Maintenant, je comprends très bien qu'il y a des différences font parfois peur. Nous avons 10 poules à la maison. Il y a une poule qui a perdu ses plumes. Des 9 autres poules l'ont assassinée.
Oh, c'est pas vrai.
Intéressant, hein.
Donc on se rapproche des poules parfois.
Drame de la différence.
C'est assez ouais. On voit plein d'images des animaux qui s'aiment comme ça, un chien et un chat et une petite oiseau sur le net. On voit des images comme ça. Ça me touche. Je dis tiens. C'est peut-être possible.
Dave, on l'a dit, vous avez écrit vos mémoires, votre 4e autobiographie.
Oui,
après,
parce qu'il y a eu 4 vies.
Voilà. Après un événement qui a inquiété tous vos fans. Il y a 2 ans environ, vous aviez chuté de 3 mètres chez vous. Vous avez passé 4 jours dans le coma. Aujourd'hui, vous vous sentez comment ? Nous, on vous sent en pleine forme, mais je crois que vous n'avez toujours pas retrouvé le goût et l'odorat, c'est ça?
Ah, ça c'est terrible. C'est-à-dire quand on est un petit peu, c'est même beaucoup épicurien, j'adore boire un bon vin, j'adore bien manger. Mon compagnon est vegan, mais moi pas du tout. Et même, j'ai la chance d'avoir une baraque dans le sud de Vaucluse où il y a de la lavande partout que je ne sens pas. Et ça, vraiment. Et quand je vais dans un grand magasin pour faire mes courses, j'adore faire mes courses, et que je vois une boîte de sardines à l'huile d'olive, j'ai envie de l'acheter, mais je sais que je ne l'achèterai pas, donc je fais des économies, je maigris.
Est-ce que cet accident domestique, il vous a aussi fait réfléchir à la fin de vie? Parce qu'on vous s'est engagé sur ce sujet. Vous avez dit, je suis vraiment prêt pour l'euthanasie.
Ah ben, c'est-à-dire que l'euthanasie, c'est sociétal aux Pays-Bas. Même, moi, après, ma mère avait été euthanisée, c'était un moment évidemment d'immense chagrin. D'ailleurs, je chanterai au Grand Rex le 21, mais une chanson que Patrick Loiseau a écrite à ce moment-là qui s'appelle Dernier Regard.
Et oui, parce que votre maman a eu recours au suicide assisté en Suisse, c'est ça, vous étiez à ses côtés à ce moment-là.
C'était l'euthanasie. C'est ma mère qui a tapoté le médecin sur le menton en disant « Allez-y, monsieur ». C'est très intéressant et très ambigu quand même. Parce que parfois, quand la famille, quand les enfants habitent à Washington ou à Dakar ou je sais pas où, et qu'ils viennent deux fois, et que finalement la personne ne meurt pas, ils repartent, et quand on leur propose une euthanasie, peut-être ils disent « Mais allons-y, parce qu'on en a marre de voyager ». C'est un peu dur et c'est un peu hard ce que je viens de dire. Mmh. Mais ça peut exister, ça.
Vous n'avez pas un avis totalement défini sur le sujet?
Je comprends bien que, évidemment, j'ai vécu, moi, en France, où le médecin, dont je citerai évidemment pas le nom, quand je me suis plaint, parce qu'il n'y avait pas encore de trithérapie, il n'y avait rien contre le sida. Et ouais. Quand j'ai dit, mais pourquoi vous continuez à le faire vivre? Et il a répondu, mais vous êtes là tous les soirs. Et le soir après, je ne suis pas allé. Et on m'a appelé pour me dire qu'il était mort. Donc, ça existe déjà.
Il y a une forme d'hypocrisie dans notre pays. Vous avez l'impression que la loi doit évoluer pour au moins offrir le choix.
C'est pas simple, parce que, en plus, je suis pas un homme politique et je suis pas un juriste, même si je fais des études de droit, je suis pas beaucoup allé. Disons que légiférer à ce sujet me semble assez compliqué. Mais être obligé aujourd'hui d'aller en Suisse ou plus loin encore pour le faire, c'est pas normal non plus. Et la grande différence, c'est la seule chose que j'ai envie de dire à ce sujet, c'est que ma mère, quand on l'a euthanisée, est enterrée par ses enfants et l'ami dont je parle, on l'a euthanisée tout seul. Il faudra trouver une solution. Mais c'est pas au petit chanteur de variété de le dire.
Non, bien sûr.
Surtout à mon âge. C'est idiot par définition.
On évoquait la fin de vie. Vous dites que vous aimeriez qu'on écrive ouf sur votre urne. Pourquoi?
Oui, parce que j'aime bien le côté verlan dans ouf, parce que disons que ma vie est folle. Je sais que maintenant l'espérance de vie pour l'homme est de 80 ans, mais je veux bien encore continuer. Voilà, je voudrais bien chanter au Paulette Congrès ou ailleurs, dans un petit cabaret à 100 ans.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Dave d'être venu nous voir dans RTL. Bonsoir, votre anniversaire, le vrai, c'est samedi, donc avec un peu d'avance. Joyeux anniversaire, on a regardé en néerlandais, ça se dit Reluke Reveillagar, c'est ça? Je le tiens bien ou pas?
Non.
Pas du tout.
Pas du tout.
Reluke Reveillagar.
Ouais, j'étais pas loin.
Mais oui, c'est ça, j'ai compris.
Tant mieux. Vous avez quoi de prévu samedi d'ailleurs pour le vrai anniversaire à la maison?
Le mariage de Renaud.
Ah.
Il se marie le jour de mon anniversaire, c'est un beau cadeau qu'il me fait.
C'est pas mal.
Renaud le chanteur?
Oui,
c'est ça. Pas la voiture.
Avec Cerise?
Oui, on l'appelle plus Cerise.
Ah, ça y est, pardon.
Et en lui, on n'appelle plus la queue de Cerise.
Bon, c'est un joli cadeau pour votre anniversaire. Et l'anniversaire sur scène, c'est le 21 mai au Grand Rex à Paris. Happy birthday encore, Dave. À très bientôt dans RTL. Bonsoir.
RTL, bonsoir.
Et la suite de l'émission, c'est de la musique, toujours avec votre playlist Roman Binkley, bonsoir.
Bonsoir.
On écoute qui, on écoute quoi ce soir?
On va écouter Madonna qui prépare un concert géant à Rio, et puis aussi les Français qui sont de plus en plus écoutés à l'étranger, mais je laisse le suspense.
Très bien, on va passer en cuisine aussi avec la guinguette d'Angèle Ferremax. Salut Angèle, qu'est-ce qu'on mange ce soir?
Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, à tous les amateurs de douceur qui nous écoutent, je vais vous proposer une délicieuse tarte aux noix de Grenoble et au miel.
Wow. Alors ça, j'adore.
Un dessert.
Donc, ça donne des aftes, mais j'adore.
Il est temps. On est le 1er mai. Allez, à tout de suite.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
RTL, bonsoir.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 184 €.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Aliane a
plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Alors que les TPE-PME ont bien du mal à recruter, l'APEC aide les entreprises à recruter le profil qui correspond vraiment à leurs besoins, notamment avec le service Sourcing Plus. Cet accompagnement personnalisé a permis à Eurogroupe Consulting de recruter 3 talents seniors. Un service gratuit à retrouver sur APEC.fr.
RTL, bonsoir.
RTL.
Des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre, de petits oignons, des cornichons.
Bonsoir.
RTL vous régale, la voici, la guinguette d'Angèle Ferremague, la chef de l'excellent restaurant La Guinguette d'Angèle, rue Coquillère, Paris 1er. Et un petit dessert ce soir pour tous ceux qui sont en cuisine en ce moment en train de nous écouter.
Oui, une tarte aux noix de Grenoble et au miel. Cette tarte, c'est vraiment délicieux, c'est inratable, même les gens qui disent « Oh, je trouve que vraiment les noix, ça massage ». Non, cette tarte, c'est un délice et c'est un succès garanti. En plus, on peut les faire toute l'année parce que les noix de Grenoble se conservent.
Comme les kebabs.
C'est quoi des noix de Grenoble?
En fait, c'est les noix qui ressemblent à des petits cerveaux.
Elles viennent
cerveaux.
De Grenoble.
Ah oui, mais c'est des noix, quoi.
C'est des noix.
Oh, d'accord.
Oh, le belge. Les noix, c'est Grenoble.
Non, mais les choux de Bruxelles, c'est pas les mêmes choux que les choux.
C'est vrai.
Et les noix, c'est
vrai,
les noix.
Mais comme il y a des noix du Brésil, des noix de pécan, et que là, elles sont IGP, j'en profite. Pour
des noix, quoi.
Oui, des noix.
Tarte aux noix.
Voilà.
Mais pas forcément des noix fraîches, on est d'accord.
Ah forcément, elles sont fraîches qu'à un moment dans l'année.
Je sais, au mois de septembre. On adore les noix. Oh. Je sais.
Donc, pour préparer, on va commencer par préparer la pâte.
Ouais.
Pour la pâte, on va commencer par prélever les graines d'une demi-gousse de vanille.
Okay.
Le reste de la gousse de vanille, qui est dénuée de toutes ses graines, on le garde et on le met dans son sucre.
Ah oui, comme ça fait du sucre vanillé.
Vanillé, voilà, okay. Exactement. Donc, dans un saladier, on va mélanger 85 grammes de sucre. Moi, j'aime bien utiliser du sucre complet ou de la vergeoise qui vient du Nord. Et avec 150 grammes de beurre pommade, les graines de vanille, 60 grammes de poudre d'amande, une petite pincée de sel. On mélange bien. Et puis ensuite, on va incorporer un œuf et 80 grammes de farine. Alors, j'ai peur de vous perdre, mais si vous mettez de la farine de sarrasin, avec les noix.
Elles vont être encore meilleures, mais bien sûr.
Encore meilleures.
Ah, ouais.
Ça ajoute une petite amertume qui est vraiment délicieuse. Donc ensuite, quand tout est bien mélangé, vous allez placer la pâte entre deux feuilles d'un papier de cuisson.
Ouais.
Vous allez l'étaler. En fait, comme cette pâte est un peu friable, le fait qu'elle soit entre deux feuilles de papier de cuisson, déjà, ça garantit que ce soit bien homogène. Et en plus...
Ça évite d'en mettre partout.
Ça évite d'en mettre partout et ça les garde bien ensemble. On va ensuite laisser cette pâte à peu près 15 minutes au congélateur. Ça va vraiment aider à la cuisson. Pendant ce temps-là, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, vous sortez la pâte du congélateur. Vous l'étalez entre les deux papiers de cuisson sur votre moule à tarte. Vous retirez délicatement la feuille du dessus.
Eh ben oui.
Vous piquez le fond, voilà,
ouais.
Avec une fourchette par exemple, et vous mettez au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes.
Là, on a la pâte, mais on n'a pas la garniture.
On a la pâte. Voilà. Pendant ce temps-là, on va préparer notre garniture. Donc, on va grossièrement concasser 200 grammes de noix.
De Grenoble.
Voilà, bravo. Okay. Et alors, on en garde quelques-unes pour la décoration après, si vous voulez faire vraiment une très belle tarte. Ensuite, dans un saladier, on va fouetter 4 œufs. 80 grammes de sucre complet, 100 grammes de miel. Idéalement, on prendra du miel liquide, genre miel d'acacia par exemple, qui est beaucoup plus riche en fructose, et étonnamment qui a un indice glycémique plus bas que le miel solide.
Donc on mélange tout ça avec les noix concassées.
Les œufs, les noix, le miel, 50 grammes de beurre, les graines de la gousse de vanille si on veut, si on a oublié de le mettre avant, et une cuillère à soupe de cannelle. Un petit peu de sel, et après, tout simplement, on va incorporer ce mélange sur notre fond de tarte, et on va réenfourner à 160 degrés pendant à peu près 30 minutes, jusqu'à ce que la garniture soit juste prise. On n'a pas besoin qu'elle soit très solide, en fait, la cuisson va se finir à l'extérieur du four. Vous sortez la tarte, vous disposez joliment les noix entières, si
celle qui
vous
reste.
Voulez, que vous avez réservé au-dessus. Vous laissez un peu refroidir, et là, vous mangez.
Et c'est un peu liquide en bouche ou pas avec le miel?
C'est complètement fondant.
Oh là là.
C'est complètement fondant.
C'est un fondant de noix en fait.
Et vous pouvez le servir avec une petite cuillère de crème fraîche.
D'huile d'olive.
Non, de la crème fraîche.
Et c'est réussi.
Ou une boule de glace. Oh là 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 là. Formidable. Magnifique cette recette. J'en ai mis la bouche. J'ai très 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 faim. La guinguette d'Angèle. Merci beaucoup, Angèle.
Merci à vous.
entendu.
Le travail, c'est la santé.
Un jingle spécial travail, vous avez compris?
Ben oui.
Parce qu'on est le...
Premier mai.
Et c'est la fête
c'est
du...
travail.
Il faut arrêter tout expliquer, c'est pas
explicateur.
Il faut arrêter tout expliquer.
Mais non.
Allez, la playlist maintenant, c'est avec vous ce soir, Roman Binkley. Et on commence avec cette opération Madonna, parce que Rio de Janeiro, la métropole brésilienne, se prépare à accueillir la star internationale.
Pour la dernière date de Celebration Tour, la tournée qui fête les 40 ans de succès de Madonna, direction la plage de Copacabana, où des messages comme Welcome Queen sont affichés quasiment sur tous les murs pour annoncer un concert géant, le plus grand de sa carrière. Alors après 80 dates en Europe, aux États-Unis et au Mexique, Madonna a atterri à Rio avec 270 tonnes de matériel. Oh. Pour lesquels il aura fallu 3 avions. Ouais, la star prévoit une scène de 800 mètres carrés sur la plage.
800 mètres carrés.
Oh bah c'est 2 fois mon appartement. juste le double de celui de Cyprien, tout
ouais.
va bien.
Un peu moins.
En tout cas, sont attendus jusqu'à 1,5 million de spectateurs, car il faut le dire, l'entrée est gratuite. Les derniers à atteindre ce chiffre, c'était les Rolling Stones en 2006, sur la même plage. Et c'est surtout la mairie qui se frotte les mains. Selon les estimations, le concert de Madonna va générer plus de 50 millions d'euros pour l'économie locale.
C'est énorme. Et on peut être fier de nos artistes français aussi, puisque la musique française s'exporte de plus en plus. Ça, c'est votre deuxième info.
Ouais, tout à fait. Une hausse de 30% par rapport à l'an passé, selon le Centre National de la Musique. Et un succès que l'on doit en partie à cet artiste.
J'ai l'impression d'être à la maison avec ma fille de 11 ans.
Dommage que vous n'ayez pas la vidéo parce qu'il danse dans le studio. Vous l'avez reconnu, Aya Nakamura, poids lourd en France et à l'international. Son dernier album DNK, sorti l'an dernier, est certifié disque d'or. Et celui avec lequel elle a explosé, Nakamura, dépasse lui le 1 million d'exemplaires vendus à l'export, soit double diamant.
Et là, on parle de vente, pas de streaming. Vendre aujourd'hui 1 million d'exemplaires, c'est complètement fou. Dingo.
Justement, platine, diamant, vous nous rappelez les règles, Robin ?
Oui, alors on commence par disque d'or, c'est un équivalent de 50 000 ventes, platine 100 000 ventes et diamant 500 000 ventes. Et puis il y a des déclinaisons comme l'artiste Jane par exemple, certifiée elle 6 fois diamant plus et bas. Sorti il y a 8 ans, le titre a connu un succès fou l'année dernière sur les réseaux sociaux grâce à des challenges de danse. 21 millions de vidéos créées sur TikTok pour un total de 66 milliards de vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est dingue.
Ça a relancé le titre, ouais, la folie.
À partir du moment où il y a des challenges.
Toutes les ados dansent là-dessus.
Votre fille fait ça
avec une petite
Isabelle.
Chorégraphie. Non, mais parce que j'ai une ado, quoi. Donc voilà, Makeba.
Donc 66 milliards de vues et sur les plateformes de streaming, Makeba totalise 430 millions d'écoute dans le monde, rien que ça.
À part Aya Nakamura, on a qui encore comme artiste français, Roman, qui s'exporte justement avec succès?
Alors, dans la liste des artistes actuels, mais aussi ceux d'hier.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit.
De couper, hein, genre, on l'écoute depuis 1964 et sans se lasser, si bien que ce titre Hier encore de Charles Aznavour est certifié diamant à l'export. Vous avez suivi, diamant
500 000.
On est bon.
Et pourquoi cette chanson, elle marche si bien cette année d'un coup alors qu'elle existe depuis 64? Pourquoi elle s'exporte aussi bien?
Eh bien, ce qui a contribué à tout ça, c'est son utilisation dans la série Lupin avec Omar Sy. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle a cartonné.
Oui.
Et on le doit aussi à une nouvelle version dans le dernier album de Bad Bunny, une méga star portoricaine qui reprend la célèbre mélodie dans un morceau de rap. Qui se termine quand même, il faut le dire, par la voix de son créateur, tout simplement, Charles Aznavour.
Et puis, il y a des Belges aussi qui contribuent à exporter la musique française, francophone en tout cas.
En fait, ce qui compte, c'est que les singles ou albums soient produits en France, donc pas forcément chantés en français, ni par un artiste français. Et c'est pour ça que dans la liste, on retrouve... qui cumule avec son titre Un jour je marierai un ange plus de 60 millions de vues sur TikTok.
Il est belge alors lui.
Ah oui,
joli.
Ah oui, bien sûr. Mais il a aussi des attaches en Bretagne.
Toujours la Bretagne.
Avec c'est vrai.
Vous placez l'OM quand on parle de PSG, la Bretagne. Il y a aussi encore une autre artiste flamande bien connue, Angèle, qui dépasse avec son album 95 le seuil platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus à l'étranger. Comme quoi, les Belges en France, ça marche.
Et pas qu'en France, d'ailleurs.
On va presque remercier les Belges, aussi. En fait.
On l'a bien compris. Ce qui est fou, c'est de voir le pouvoir des réseaux sociaux pour faire exploser des artistes.
Les streams aussi, c'est hyper important.
Et les séries.
C'est
incroyable.
Et les séries.
Et les séries, bah oui, c'est fou.
Le retour de Kate Bush avec Stranger Things ou ce genre de
choses. Charles Aznavour, c'est fou. Bouche. Bon, on est pressé par le temps.
Oh là là,
on
oui.
aimerait écouter Angèle pendant des heures. On vous remercie, Roman Minkly, pour cette playlist. Mais là, il est temps de jouer. Donc, on marque une toute petite pause et ensuite, on vous envoie encore. C'est le grand quiz de RTL. Bonsoir.
Julien Cellier, Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
RTL, bonsoir. Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ? Pas sur des nouveautés qui datent de piou, vraiment trop longtemps. Jusqu'au 27 mai pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, profitez de 15% de réduction sur tous les portails standards et sur mesure. Oui, tous, 15%, même sur les nouveaux modèles de la gamme. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Bonsoir.
Julien Cellier,
Isabelle Choquet et Cyprien Sini.
Le grand quiz.
Et le voici, le grand quiz de RTL. Bonsoir. Avec un très joli cadeau à gagner pour vous, les auditeurs, maintenant.
4 jours et 3 nuits à deux dans le sud de la Corse, dans le sublime hôtel 4 étoiles, le Pinarello, face à la baie de Pinarello. Une des plus belles baies de Corse. En fait, je le fais avec l'accent italien, c'est plutôt près de Porto Vecchio.
Très bien. Il a l'air magnifique, cet hôtel.
Il est magnifique. C'est un hôtel intime avec des terrasses privatives donnant sur la mer. Pour toutes les chambres, un spa et une piscine sur le toit avec une vue magnifique sur la baie turquoise. C'est le paradis.
Bon, alors pour aller au paradis, il faut respecter les règles. Vous nous les donnez ?
6 questions, 4 bonnes réponses et c'est dans la poche. Tout a été dit depuis 18h et vous avez 3 jokers avec Isabelle et Julien.
Qui joue avec nous ce soir ?
Qui joue avec nous ? C'est Jonathan qui joue avec nous. Bonsoir, Jonathan.
Oui, bonsoir, c'est
bonsoir,
moi.
Bonsoir, Jonathan.
Vous nous appelez d'où, Jonathan ?
Des Sables d'Olonne.
Qu'est-ce que vous faites en Vendée ?
Je suis livreur, je livre les colis.
D'accord, vous avez envie de partir en voyage ?
Je connais pas la Corse, donc...
C'est parti, première question.
À 18h15, Jonathan, on recevait Fabien Roussel et on a parlé avec lui de ce qui s'est passé à Saint-Étienne où un autre homme de gauche a été éjecté du cortège. De qui s'agit-il ? Raphaël Glucksmann, François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon ?
Glucksmann.
Bien joué, Jonathan. Un point.
Deuxième question.
À 18h40, avec notre invité pour tout comprendre, on a parlé Euromillion, gros gains et placements financiers. Combien a gagné le vainqueur de l'Euromillion hier avec ce billet validé en France ? Est-ce qu'il a gagné 166 millions, 166 milliards ou 166 euros ?
166 millions.
Bien joué, Jonathan. Deuxième bonne réponse. Troisième question. À 19h30, on discutait avec le chanteur Dave. On a évidemment écouté l'un de ses plus grands tubes. Quel est le titre de ce tube ? Du côté de chez Jean-Michel ? Du côté de chez vous ? Ou du côté de chez Swan ?
De chez Swan.
Oui ! Troisième bonne réponse.
C'est encore un quiz compliqué, celui-là.
Alors, plus qu'une bonne réponse et c'est gagné. C'est pas la plus dure, la quatrième, je vous le dis. Dans sa playlist, Roman vient de nous parler du dernier concert géant de la tournée mondiale de Madonna. Un concert de la démesure. Où va-t-il se tenir, ce concert ? À Rio de Janeiro, sur la plage de Copacabana, à la salle polyvalente Jean Renoir de Villeneuve-d'Ascq ou au stade Léo Lagrange de Vierzon.
Rio de Janeiro.
Mais oui, Jonathan, c'est la Corse, mon beau.
Ah, super, merci.
Bravo, Jonathan. Vous savez avec qui vous allez partir, c'est pour deux.
Oui, avec ma copine, du coup.
Très bien, on l'embrasse, votre copine, elle s'appelle comment ?
Magali.
Très bien, on embrasse Magali. Profitez de la Corse avec Magali, Jonathan. Envoyez-nous une carte postale.
Merci.
Vous avez réussi le 4 à la suite, comme dirait Julien Lepers. Donc vous repartez avec le mug RTL et la montre RTL. On vous envoie ça aussi à la maison. Vous supportez un club de foot ou pas, Jonathan ?
Le FC Nantes.
Eh oui, la Vendée, c'est pas loin.
Ça fait longtemps que le FC Nantes n'a pas joué en Ligue des Champions. Vous serez derrière le poste de radio ce soir pour écouter Dortmund PSG.
Oui.
Et vous êtes pour Dortmund, évidemment.
Pour Dortmund, ils jouent en jaune.
Non, je suis chauvin quand même. Je suis pour le PSG.
Très bien. Bon, alors bon match, cher Jonathan, et passez une belle soirée foot à l'écoute de RTL parce qu'on va céder le micro dans quelques instants à Eric Silvestro qui vient de s'installer en studio. Salut Eric.
Ça va les amis ?
Ah oui. Ça va et vous ?
J'ai un doute, on est bien mercredi.
Oui.
On n'est pas jeudi.
Non.
Parce que j'ai écouté votre débat tout à l'heure avant le PSG. Et j'ai eu un petit doute.
le fantastique Marseille à Vélodrome.
Marseillais.
L'OM, OM à Vélodrome demain. Volcan Marseillais.
Marseillais. Vélodrome dans un grand soir.
Marseille,
la Marseille, c'est particulier.
L'OM, OM à Atalanta.
Bravo, bravo. Vous les avez démasqués.
Voilà. Donc ce soir, c'est bien cette musique-là qu'on entendra pour la Ligue des Champions. Dortmund, Paris Saint-Germain. Et puis pour Marseille, ce sera demain soir au Vélodrome face à l'Atalanta. Et ce sera aussi sur RTL, hein, ne vous inquiétez pas.
Vous savez qu'on a un petit prisme avec Cyprien.
Non, mais on a parlé du PSG et de Dortmund.
Step by step, match après match. On commence par Dortmund-PSG ce soir.
Ce qui est certain, et ce ne sont pas nos envoyés spéciaux à Dortmund qui nous démentiront, c'est que l'ambiance ce soir à Dortmund sera peut-être digne, peut-être.
Peut-être.
Les grandes ambiances du Vélodrome.
Vous avez un mur à 37 degrés d'inclinaison, vous, au Vélodrome, ou pas ?
Vous parlez du mur jaune.
25 000 personnes.
Ce sera chaud ce soir à Dortmund. Restez à l'écoute. On est parti pour combien d'heures ?
Jusqu'à 23
heures. 3
heures. Coup d'envoi à 21
heures. Coup d'envoi à 21 heures. Dortmund PSG, la soirée foot, c'est parti. Eric Silvestro, je vous cède mon siège.
RTL. On en parle.
Les journées de la sécurité routière au travail, c'est du 27 au 31 mai. On en parle avec Jean-Marc Feduti. Vous êtes le gérant de Flandre C2E à Auchy-les-Mines, où je vous appelle. Alors Jean-Marc, pourquoi participez-vous à cet événement ?
Vous savez, les accidents de la route sont la première cause de mortalité dans le cadre du travail.
Mais oui.
Et les conséquences sont lourdes, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.
Et donc, comment sécurisez-vous vos salariés ?
Eh bien, on a instauré un contrôle régulier des véhicules de société, sensibilisé nos collaborateurs par de l'affichage dans les locaux, et on a créé un challenge sécurité pour encourager les bons comportements sur la route, avec bien sûr l'attribution d'une prime de fin d'année en bon d'achat.
Merci beaucoup.
On en parle. Pour participer aux journées de la sécurité routière au travail, rendez-vous sur sécurité-routière.gouv.fr.
Souvent, on doit faire des choix dans l'aménagement de sa maison. Mais pour votre porte de garage, pas de compromis. Choisissez la qualité J-Pass. Tous les produits J-Pass sur jpass.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Il n'y a pas d'âge pour apprécier un bon repas. Et choisir les menus services, c'est se simplifier la vie. Les menus services, le spécialiste du portage du repas à domicile qui s'adapte aux besoins des seniors. Les menus services livrent partout en France des repas variés, équilibrés, avec un large choix de produits.